RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le grand reportage du jour, direction Cuba. Cuba qui est en train de prendre un important virage économique et social. L'île a lancé une réforme sans précédent que les autorités appellent actualisation du système. Elle sera entérinée là au mois d'avril lors du prochain congrès du Parti communiste qui se tiendra juste après la suppression de 500 000 emplois du service public. L'État veut en effet une économie du pays plus dynamique en s'appuyant dorénavant sur le secteur privé. Les autorités veulent aussi réduire les aides sociales et en finir avec le paternalisme d'État, mais sans renoncer pourtant au socialisme et aux acquis de la Révolution. Cuba, la révolution des réformes, grand reportage signé Altine Lazage. Altine que l'on retrouve pour en parler en direct dans un quart d'heure.
Depuis que le président Raúl Castro a officiellement ouvert l'économie au secteur privé, des dizaines de milliers de Cubains ont déjà demandé des licences pour travailler à leur compte. 178 activités sont concernées. Menuiserie, restauration, réparation automobile, coiffure, vente de CD, etc. Alhen est informaticien jusqu'en décembre dernier. Dans la cour d'une villa ancienne de La Havane, il vend aujourd'hui des CD de musique. Il avoue qu'une partie est piratée.
J'achète la plupart des CD dans des magasins de l'État, mais aussi au marché noir, car c'est moins cher. Je suis content de ce que je fais, mais mécontent à cause du niveau des impôts. Quand j'ai commencé à exercer cette activité, l'État m'a demandé 60 pesos. Un mois après, ça a augmenté à 100 pesos, et maintenant c'est 300 pesos. Malgré cela, je pense continuer à exercer cette activité. Mais pour réussir, je dois acheter des CD piratés. Sinon, je ne peux pas conserver la licence.
À la fin du mois, Alhem gagne 1000 pesos cubains, ou l'équivalent de 35 euros. Trois fois plus que lorsqu'il travaillait pour l'État. Grâce à cette libéralisation de l'économie, La Havane change de visage, comme les autres villes de Cuba. Les activités commerciales les plus diverses ont envahi les rues, donnant à la capitale une animation particulière. Avec le défilé des voitures américaines des années 50, ce panorama offre un vrai spectacle. Nous sommes au centre culturel des antiquités, près du port de la capitale. Roberto Martinez vend des modèles réduits en bois de vieilles voitures américaines. Avant, il travaillait comme technicien à la radio-télévision. Est-ce que tu gagnes plus ici qu'à la radio-télévision ?
Oui, bien sûr, mais mes revenus dépendent de la saison touristique. Il y a des mois qui sont, comment dire, plus productifs. Mais il faut payer quand même à l'État la licence tous les mois. Je gagne entre 300 et 400 pesos convertibles par mois, c'est-à-dire 300 euros environ. Je paye à l'État 159 pesos pour la licence et 106 de location pour l'emplacement.
Aujourd'hui, le dogme établi par Raúl Castro lui-même est l'ouverture. Nous devons défendre les intérêts des travailleurs indépendants, a-t-il affirmé en décembre. Avant, ouvrir son entreprise était un casse-tête du fait des lourdeurs administratives, ce qui engendrait un commerce parallèle. Aujourd'hui, seules deux photos et la carte d'identité suffisent à se lancer dans l'aventure. Les activités privées donnent à Cuba un nouveau souffle. Beaucoup de ceux qui travaillaient illégalement ne se cachent plus. Ils sont même considérés désormais comme une des solutions pour sauver l'économie. Ricardo Alarcón, le président du Parlement cubain, s'exprime sur cette économie parallèle.
Les changements qu'on va introduire dans notre économie aura précisément comme conséquence une certaine réduction ou élimination de cette économie parallèle. Pourquoi ? Parce que précisément en libéralisant certains aspects de l'activité économique, des gens qui, dans le passé, essayaient de faire des choses non légales, tiennent à disparaître dans la mesure où beaucoup de choses qui étaient considérées auparavant comme anormal devient normal.
Cependant, pour réaliser les changements économiques en cours dans le pays, des financements étrangers sont nécessaires. C'est justement ce qui pose problème à Cuba.
Tous les pays, normalement, quand ils s'engagent, ces efforts reçoivent une certaine coopération internationale. Mais Cuba est le seul pays du monde qui doit s'engager dans un processus d'ajustement de son économie, non seulement sans coopération internationale d'envergure, mais avec un embargo américain.
La libéralisation des métiers fait partie d'un grand programme de réforme du modèle économico-social qui contient 12 volets. Il va être validé prochainement lors du 6e congrès du Parti communiste. Ce programme prévoit, entre autres, une ouverture aux capitaux étrangers privés, la suppression d'un demi-million d'emplois d'ici avril et la création de petites et moyennes entreprises privées. En outre, la réforme propose l'élimination de subventions et l'autonomie de gestion des entreprises publiques. Pour la mettre en place, les autorités cubaines invitent le peuple au débat. Le gouvernement présente cette consultation populaire comme un exemple de la démocratie cubaine. Nous sommes dans la raffinerie de pétrole Nicol López. Sur le podium, le secrétaire du Parti communiste de l'entreprise s'adresse aux 115 ouvriers réunis.
Les participants sont en pleine liberté de faire des propositions de modification.
Selon lui, les participants peuvent proposer librement soit des modifications, soit des suppressions, soit d'ajouter des idées ou d'exprimer des préoccupations sur les 12 volets de la réforme. Un ouvrier prend la parole, il exprime une préoccupation dans le cadre du volet transport.
La réparation des routes a commencé dans le cadre de l'amélioration du réseau routier. Mais d'un coup, tout est arrêté et les routes sont toujours en mauvais état. Il faut noter ça, pour moi, c'est une vraie préoccupation.
Le secrétaire du parti prend note. Alfonso Herrera Monter, un autre ouvrier, veut ajouter une remarque. Il est un peu confus dans ses propos. N'est-ce pas normal? Le fonctionnement de l'économie de marché est méconnu de la plupart des Cubains.
Le volet sur le commerce dit qu'il est nécessaire d'augmenter la fiscalisation sur les produits vendus dans les magasins. Pourquoi le gouvernement n'augmente-t-il pas les taxes sur les produits vendus par les boutiques de l'État, comme il l'a fait pour le privé? La conséquence, c'est que les produits vendus chez le privé sont plus chers et ce dernier profite de cette situation pour remplir ses poches. Pour éviter cette concurrence et égaliser les prix, il faut donc augmenter la fiscalisation sur le produit vendu par le commerce de l'État. Cette hausse aidera justement à sauvegarder ce commerce. Cette réforme ne doit pas pousser à une disparition de l'égalité sociale. Nous voulons que l'État vende, par exemple, la pizza à 5 pesos et le privé aussi, pour qu'il y ait un équilibre.
Le secrétaire du parti demande maintenant de voter pour ou contre ce volet de la réforme. Tous les participants sont pour. D'ailleurs, la totalité de la réforme est approuvée par tous les ouvriers présents. Plus de 6 millions de Cubains ont participé jusqu'à maintenant à cette consultation partout dans l'île. Vrai débat ou faux semblant? Sont-ils utiles? Écoutons l'opinion de Juan, un chauffeur de taxi.
Ces débats populaires sont très productifs parce que les personnes peuvent dire ce qu'ils pensent. On aurait dû faire ces changements il y a très longtemps, c'est très bien. Les Cubains vont être plus indépendants, on gagnera notre argent par notre travail et on ne vivra plus avec des cadeaux.
Alina Prendis est étudiante en ingénierie industrielle.
Oui, c'est bien que tout le monde puisse dire ce qu'on pense. Et même à l'université, on fait des débats pour dire ce qu'on pense à propos des mesures qu'a prises l'État.
Ces débats conduiront peut-être à une approbation populaire de la réforme, avec des amendements sur certains points. La majorité des Cubains semble l'approuver. Réforme, oui, mais il faut aller doucement, dit Eloy Rodriguez, spécialiste de la médecine alternative.
Personnellement, je préfère ce changement parce que c'est un changement très doux. Parce que les changements rapides, jamais sont bons. Comme par exemple, il y a des changements qui sont faits en Russie, des changements qui sont faits ailleurs, des Cubains. Ça, c'est pas bon pour le peuple parce que moi, en tant que Cubain, je préfère garder le pays tel quel. Parce que Cuba, c'est le pays le plus sûr du monde. Je préfère que les Cubains gardent cette gaieté, cette envie de vivre, cette solidarité. Et moi, je ne crois pas qu'on va changer le capitalisme. Moi, je dis toujours qu'on va faire un système socialiste tropical à la cubaine.
Les Cubains attendent à travers ce grand changement une vie meilleure, même si la crainte des incertitudes du futur pèse. Gerling Castresana travaille comme guide touristique pour l'opérateur d'État Cubatour.
C'est normal d'avoir peur, mais il y a des personnes qui ont peur parce qu'ils ne sont pas bien préparés. Il y a d'autres qui sont débrouillards et il y a d'autres qui s'en foutent de la situation, qui pensent que c'est la même chose avant les changements, après les changements, pendant les changements. Et la plupart de la population cubaine sont d'accord avec les changements, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas contentes avec ce qui se passe maintenant ici à Cuba. Les prix sont très hauts, et les salaires sont très bas. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup tout le mois pour recevoir 15 pesos convertibles au moins. Et ce n'est pas le salaire minimum ici à Cuba.
C'est un changement qu'on attendait depuis toujours. Et le gouvernement avait préparé le peuple depuis 15 ans. Depuis 15 ans qu'on parle de ce changement. Peut-être que maintenant, il y aura des Cubains qui vont dire ah, écoutez, bon, c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. En fait, aucun système peut avoir une économie comme la nôtre. Par exemple, il y a des endroits où ils ont besoin d'avoir 4 employés et ils sont 10. Ça, ce n'est pas possible. Aucun pays s'est fait avec des gens qui parlent. Aucun pays s'est fait avec des gens qui pleurent. Tous les pays du monde s'est fait avec l'économie, avec les gens qui travaillent.
A l'inverse, les résultats des débats sur cette réforme pourront exprimer un mécontentement profond de la population, surtout à cause des 500 000 licenciements annoncés par le gouvernement. Pour Gerling, l'État doit faire très attention. Elle prend exemple le secteur du tourisme.
Par exemple, les guides touristiques qui vont être licenciés par les agences sont des personnes âgées qui parlent par exemple une seule langue et qui peuvent travailler seulement avec un marché touristique. Ils vont rester seulement dans les agences les personnes qui parlent plus de deux langues, plus de trois. Donc les personnes qui ont été licenciées par l'agence, ils ne vont pas trouver du travail dans d'autres agences qui vont faire la même chose. Et la seule chose qui reste, c'est la retraite ou même ouvrir une affaire personnelle.
La députée Kenya Serrano assure que l'État ne laissera aucun licencié sans ressources.
À la personne,
l'État proposera aux personnes licenciées un autre poste de travail. En attendant cette proposition, ou en attendant de trouver tout seul un autre travail, elles toucheront une pension mensuelle. Sa durée sera fonction des années travaillées. Mais si elles refusent le travail proposé, alors elles ne seront plus payées et elles seront donc responsables de leur situation. Avant, on avait de mauvaises habitudes à Cuba. Les personnes licenciées étaient payées à 60% de leur salaire en restant chez elles. Et ça pouvait durer longtemps. En plus, le plus souvent, elles travaillaient au marché noir.
Le président Raúl Castro a prévenu récemment que l'île allait au précipice sans la mise en œuvre des réformes. Ou nous rectifions, ou nous sombrons, a-t-il dit. Mais elles ne sont pas suffisantes, dit Orlando Freire, un économiste cubain.
L'État avait plusieurs options. Il aurait pu privatiser les entreprises publiques, mais il ne l'a pas fait. Il continue à contrôler ces entreprises. À mon avis, tout ce que le gouvernement fait en ce moment, c'est simplement d'essayer de trouver une solution pour les 500 000 personnes qu'il compte licencier. Sinon, la situation sociale serait explosive. Pour moi, cette réforme est trop timide. L'État ne veut pas engager des réformes plus profondes, plus audacieuses, car il a peur qu'elles entraînent des changements politiques, comme la fin du monopole idéologique sur la société. Si on veut redresser l'économie, on doit privatiser tout de suite les petites et les moyennes entreprises de l'État. L'État ne devrait conserver que les grandes, créer en quelque sorte une économie mixte. Mais je ne désespère pas. Lorsque 300 000 personnes travailleront en dehors du secteur public, quelque chose aura changé, non seulement du point de vue économique, mais également dans d'autres domaines de la société. Ces gens-là ne seront plus obligés de suivre l'idéologie officielle. Et c'est à ce moment que les changements vraiment importants interviendront.
Moi, je m'en fous qu'il y ait un changement politique. Qu'est-ce que ça m'intéresse, c'est que je puisse manger, avoir mon boulot. Et vraiment, les peuples s'en foutent de ça. Ce qui nous intéresse, c'est des changements économiques.
Mais pour Luis Cruz, étudiant en biochimie, le plus dur, ce n'est pas d'appliquer une réforme, mais de changer la mentalité des Cubains.
Changer la mentalité, c'est un process très dur, très difficile pour les Cubains. Parce que nous sommes très rigides. La politique, l'idéologie aussi nous impose une manière de parler, une manière de penser.
Gerling sent ce changement depuis que Raúl Castro a pris le pouvoir.
Avec le nouveau président, on a vu non seulement les changements économiques, mais aussi on a vu l'ouverture de l'esprit. On a aussi plus de liberté de dire ce qu'on pense. On a aussi la liberté de critiquer. C'est pour ça qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes à la base de l'économie.
Attention, dit Eloy. L'économie de marché ne doit pas nous priver des acquis de la révolution et changer notre identité.
C'est grâce à la révolution que les Cubains ont eu vraiment accès à la santé. Quand tu as la santé, tu es super riche. Ici à Cuba, tu peux te faire opérer un œil, tu peux te faire transplanter un organe. Ça, c'est extraordinaire quand même. Il faut parler aussi de l'éducation. Et l'éducation est complètement gratuite. Bon, Cuba, au début de la révolution, on était 5 millions d'habitants. Maintenant, on est 11 millions et demi. Et à l'époque, il y avait 2 millions d'analphabètes à Cuba. Nous avons un professeur sur chaque 7 habitants. C'est énorme. Nous avons un médecin sur chaque 120 habitants. C'est le pays qui a plus de médecins au monde par habitant et plus de professeurs par habitant au monde. Dans les pays de consommation, tu as tous les matériaux, mais toi, tu n'as pas l'esprit. Et l'être humain, pour moi, hein, je considère que le plus important, c'est l'esprit, c'est l'amour. Ça, on le doit vraiment à la révolution. Je peux te dire, avant, le Cuba, il valait rien. Cuba, c'était le bordel des Américains. Et après la révolution, malgré tout ce que les gens peuvent dire, hein, après la révolution, c'est que les Cubains, ils ont gagné la valeur humaine. Les gens sont fiers de dire « je suis Cubain ».
Cuba, la révolution des réformes. Le reportage vous a été proposé par Altine Lazage. Il est réalisé par Eva Moschinski.
Altine Lazage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors on voit que Cuba s'est engagé dans un changement de son système économique. Le gouvernement annonce une austérité budgétaire qui affectera en premier lieu l'emploi.
Oui, l'État parle de licencier 500 000 salariés du secteur public d'ici avril. Et à plus long terme, d'ici à 2015, il prévoit l'intégration dans le secteur privé d'1 800 000 personnes. Le secteur privé coopératif va absorber plus de 2,5 millions de personnes, soit la moitié de la population active de l'île.
Alors l'ouverture au marché privé va mettre un terme, disons-le tout net, un point final à l'égalité sociale, tant prônée jusqu'ici par la révolution cubaine.
Oui, et l'État cubain en est conscient. Il a prévenu la population. Dans l'île, dorénavant, chacun gagnera selon le fruit et l'efficacité de son travail. Fini donc le paternalisme de l'État. Mais le gouvernement a quand même prévu une réforme fiscale importante pour le secteur privé. Tout d'abord pour alimenter le budget de l'État et ensuite pour éviter la concentration des richesses qui ne sera pas autorisée. Tout entrepreneur va donc payer en fonction de son bénéfice des impôts qui varient, disons, de 25 à 50%.
Alors très concrètement, quels sont aujourd'hui les principaux problèmes de l'économie cubaine ?
Il y a tout d'abord l'embargo américain. Selon les chiffres officiels du gouvernement cubain, les dommages économiques directs causés à Cuba depuis son instauration dépasseraient les 100 milliards de dollars. L'embargo affecte tous les secteurs de l'économie, mais surtout les exportations, notamment de matières premières, comme le nickel, le tabac, le sucre. Le tourisme est également très affecté, comme le sont les investissements directs, étrangers ou les transferts de devises. Pour vous donner un exemple, le nombre de touristes de croisière a brutalement chuté à partir de 2005 à Cuba, après le rachat de divers navires de croisière par des entreprises américaines. Autre problème pour Cuba, quelque 40% des terres cultivables restent en jachère, 2 ans et demi après la décision du gouvernement de remettre des parcelles aux agriculteurs pour relancer ainsi la production locale. Les importations alimentaires coûtent plus d'1,5 milliard de dollars par an au gouvernement.
Alors il y a également le cas de ce qu'on appelle le carnet d'approvisionnement.
Il a été créé peu après la révolution. Il offre aux Cubains un quota mensuel de denrées de base à des prix dérisoires. Le gouvernement a annoncé sa suppression progressive pour économiser environ 1 milliard de dollars par an. Enfin, la double monnaie est un handicap aussi. Les prix sur les marchés régulés sont en monnaie nationale, le pesos cubain qui sert à payer les salaires du secteur public. Mais la plupart des magasins, des restaurants et les hôtels sont en pesos convertibles avec le dollar, la monnaie utilisée par les touristes ou les étrangers résidant à Cuba. Ce qui oblige parfois les Cubains à échanger leurs pesos cubains contre des convertibles et à perdre au change. L'élimination de la double monnaie n'est pas prévue à court terme.
Alors en quelques mots, quels sont alors les atouts de l'économie cubaine ?
Tout d'abord, la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique en général, qui est le second poste des exportations de Cuba après le nickel. C'est un secteur qui augmente sa production chaque année et il devrait bientôt être le premier secteur exportateur. Cuba exporte des médicaments et vaccins vers 40 pays, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe de l'Est. Cuba exporte aussi ses médecins qui vont travailler en signe de solidarité dans plusieurs pays pauvres ou en développement. Et puis, il y a le tourisme. Oui. Avec plus de 2 millions de visiteurs par an, pour un chiffre d'affaires de quelque 2,3 milliards de dollars, il est la deuxième activité économique du pays.
Altine Lazage, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, vivement lundi, au micro Laurent Sadou. Pour vous qui nous écoutez à Paris, dans le reste du monde, tout de suite un nouveau journal. Pour vous qui nous écoutez en Afrique, eh bien je vous retrouve lundi, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie, et d'ici là, travaillons à la beauté des choses.